Bonsoir. Deux nouvelles interpellations dans l'enquête sur l'attentat au couteau de samedi dernier à Paris. Au total, trois personnes sont soupçonnées d'avoir aidé le djihadiste d'origine tchétchène Ramzat Azimov. Les explications de Florence Turme dans un instant. Après les régularisations, les expulsions, 1800 gendarmes interviennent depuis ce matin sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Nicole Klein, la préfète de la région Pays de la Loire, est l'invitée de ce journal. En Italie, les populistes du mouvement 5 étoiles et de la Ligue peaufinent leur accord de gouvernement. Un contrat qui marque une rupture avec les politiques précédentes, mais qui évite le tabou d'une sortie de la zone euro. Mathilde Imberti nous appellera de Rome. Deux jeunes femmes ont été arrêtées dans l'enquête sur l'attaque djihadiste de samedi dernier à Paris. Ce sont des proches de l'islamiste abattu par la police, Ramzat Azimov. Quant à l'ami strasbourgeois du terroriste, Abdoulhakim Anaïef, il a été déféré devant un juge d'instruction en vue d'une mise en examen. Tous deux sont d'origine tchétchène et les enquêteurs pensent qu'Anaïef était au courant du projet meurtrier d'Azimov, revendiqué par l'État islamique. Armé d'un couteau, le djihadiste a tué un jeune homme et blessé cinq autres personnes. Le procureur de la République de Paris, François Molins, a fait ce soir le point sur l'enquête. Florence Turme.
François Molins a commencé par retracer l'itinéraire du tueur de l'avenue de l'Opéra où il va poignarder sa première victime, tentant même de l'égorger, jusqu'à la rue Saint-Augustin où les policiers mettront fin à son parcours meurtrier. Très vite, les enquêteurs sont remontés à son ami d'enfance, Abdoulhakim Anaïef, lui aussi français, d'origine tchétchène. Chez lui, les policiers ont saisi divers documents, ordinateurs, disques durs et clés USB, ainsi que plusieurs téléphones. Le suspect affirme en revanche avoir égaré son mobile habituel, mais les investigations réalisées sur la ligne permettent de mettre en évidence plusieurs points, explique le procureur.
D'abord, une activité internet très soutenue dans la nuit du 12 au 13 mai avec un bornage à Strasbourg. Et puis surtout plusieurs manipulations évocatrices de l'installation puis de l'effacement à plusieurs reprises d'applications de type messagerie instantanée. Il est en outre apparu que le 12 mai à 19h16, très précisément, l'intéressé a adressé à sa sœur via WhatsApp un chant djihadiste souvent repris par l'État islamique, et que de plus un message, je cite « Je t'aime, Aki », a été publié à 4h, le 13 mai, par un compte Twitter créé via une adresse IP au nom de la mère d'Abdoulhakim A.
Abdoulhakim Anaïef conteste toute participation à l'attaque, tout lien récent avec le terroriste. Les investigations vont se poursuivre pour déterminer quel degré de connaissance il avait du projet et de quelle manière il a pu lui-même y contribuer. Par ailleurs, deux jeunes femmes proches du terroriste ont été interpellées hier en région parisienne. L'une d'elles s'était mariée religieusement avec Abdoulhakim Anaïef en janvier 2017 avant de tenter de partir pour la Syrie.
Florence Turme, précisons qu'Abdoulhakim Anaïef, l'ami du djihadiste, travaillait à l'antenne strasbourgeoise de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Son contrat venait d'être renouvelé. Le feuilleton des expulsions a repris ce matin à Notre-Dame-des-Landes. Les gendarmes ont démantelé plusieurs squats de zadistes hostiles au processus de régularisation. Il y a eu quelques incidents, mais sans commune mesure avec les violences du mois dernier. Le reportage sur la ZAD de notre envoyé spécial Yann Gallic.
Les pelleteuses et les bulldozers détruisent les barricades qui se dressent un peu partout sur les petites routes et les chemins de la ZAD. Un amoncellement de tôles, de branchages et de barbelés. Les forces de l'ordre ont aussi démantelé quelques squats, des cabanes et des abris de fortune. Cette vaste opération de nettoyage a commencé dès 6h du matin avec 1800 gendarmes mobiles, une démonstration de force démesurée pour Sylvie qui est venue soutenir les zadistes.
C'est incompréhensible de mobiliser 19 escadrons pour détruire 100 cabanes, empêcher une centaine de personnes de faire une vraie expérimentation sociale. Il y a une telle force déployée pour écraser. C'est la honte de la République.
Il y a eu quelques échauffourées, mais les zadistes n'ont pas opposé une grande résistance. Ils semblent aujourd'hui fatigués par ces interventions policières à répétition.
L'État a joué un jeu là depuis quelques temps, a poussé dans le sens de la discussion haute, puis après elle envoie les flics comme elle le fait aujourd'hui pour détruire, pour évacuer. C'est vraiment du n'importe quoi et c'est vraiment une très grosse colère de les voir revenir. Puis c'est une pression, c'est une tension qui est énorme. Il n'y a aucun autre lieu que je connais où on est obligé comme ça de jouer au chat et à la souris pour arriver sur un lieu de vie. C'est quand même assez effrayant.
Les zadistes appellent à de nouvelles manifestations ce week-end pour protester contre les expulsions. Malgré la pression du gouvernement, nous resterons ici, disent-ils, pour défendre la ZAD.
Yann Gallic à Notre-Dame-des-Landes. Alors, invité de ce journal, Nicole Klein, préfète de la Loire-Atlantique et de la région Pays de la Loire. Bonsoir.
Bonsoir.
Nicole Leclin, quelle est la situation ce soir sur la ZAD ?
Bien écoutez, ce matin donc a commencé une deuxième série d'expulsions qui avait été annoncée. Tous ceux qui ne sont pas rentrés dans la régularisation et dans les projets. Donc il y a eu 4 squats qui ont été expulsés aujourd'hui. Et puis après l'expulsion, il y a la déconstruction. Le déblaiement, voilà, donc 4 squats ont été, et encore une fois, expulsés sans opposition trop forte, hein. Il y en a eu, mais très limitée, parce que ceux qui allaient être expulsés savaient, à mon avis, qu'ils allaient l'être, et surtout ceux qui n'allaient pas l'être ont été prévenus, c'est-à-dire ceux qui avaient des projets agricoles ou non agricoles savaient qu'ils ne seraient pas dans la liste, donc ça a permis d'abord d'expliquer et de préparer, et que ça se passe plutôt bien.
Alors, l'objectif, c'est donc d'évacuer tous les zadistes qui n'ont pas déposé de dossier de régularisation.
Oui, puisqu'ils affichent clairement leur souhait de ne pas rentrer dans l'état de droit. Et voilà, et le gouvernement a toujours dit que c'était évidemment inacceptable.
Donc pour vous, il s'agit de zadistes avec lesquels le dialogue est difficile, voire impossible ?
Impossible, absolument impossible, oui. Hein, donc ils l'expriment d'ailleurs très clairement sur leur site, sur les réseaux sociaux. Voilà, donc la main a été tendue, ils ne l'ont pas prise, ils ne souhaitent pas la prendre. Et il n'y a aucune raison pour qu'aujourd'hui, où il n'y a plus de projet d'aéroport, ça a été dit très clairement, les gens qui habitent là ne rentrent pas dans l'état de droit.
Il s'agit de gens qui sont installés là depuis le début ou ce sont des gens qui sont arrivés récemment ?
Sur la ZAD, d'abord c'est pour ça qu'il n'y a pas les zadistes, hein, il y a toutes sortes d'histoires. Les zadistes ont commencé à apparaître en 2008, c'est-à-dire au moment de la déclaration d'utilité publique. Ça fait donc 10 ans, il y en a qui sont là depuis longtemps, il y en a qui viennent d'arriver. Ils ont en général entre 30 et 40 ans, il y a peu d'enfants, il y a aussi quelques personnes âgées mais pas beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui sont là parce qu'ils ont envie de faire une agriculture différente. D'ailleurs, ce qui n'est pas interdit, simplement on leur demande de comme tous les agriculteurs, de déposer un projet nominatif, ce qu'ils ont fait, et d'adhérer à la mutualité sociale agricole, de rentrer encore une fois dans la même problématique que tous les agriculteurs d'un département qui est très agricole.
Nicole Klein, vous espérez rétablir la circulation de façon pérenne sur la ZAD dans les prochains jours, les prochaines semaines ?
Absolument. Hein. Je rappelle que la route a été dégagée il y a un moment maintenant. Malheureusement, certains zadistes qui s'étaient engagés à pouvoir assurer la circulation, ben, ils ne sont pas parvenus puisqu'il y a eu des squats tout au bord de la route, des barrages. Donc le conseil départemental qui a la responsabilité de cette route a fait des travaux. Ces travaux ont été endommagés, il faut les refaire. Mais je pense qu'on devrait arriver, et c'est le souhait d'ailleurs des agriculteurs qui vivent là, qui ont besoin de cette route, comme les habitants des villages alentours, hein, de pouvoir rétablir la circulation sur cette route.
Dans quel délai ?
Écoutez, c'est à voir avec le président du conseil départemental. Hein, je pense que aussitôt que la sécurité sera rétablie sur la zone, on pourra de nouveau rouler. Je rappelle que cette route est interdite à la circulation depuis 2012. On va réouvrir la route. Je crois que c'est vraiment le symbole du retour à l'état de droit et que tout le monde a besoin de cette route. D'ailleurs, cette route est empruntée sans que ce soit légal de rouler dessus. Mais ça oblige certains à faire un détour de 45 km. Donc, je pense que la raison, là aussi, retrouvera le chemin.
Alors, certains zadistes ne manqueront pas de reconstruire les squats détruits. Quelle sera votre réponse ?
Écoutez, il y a eu une première série d'expulsions, hein, 29 squats, et les gendarmes ont, à ma demande, empêché toute reconstruction. C'est une des missions des gendarmes qui sont là. Et il n'y a pas eu de reconstruction, parce que il faut pas oublier quand même qu'il y avait 10 squats en 2012, 97 aujourd'hui, que c'est une zone préservée, humide, à protéger, donc il y a de toute façon trop d'habitats précaires et il faut revenir à une situation maîtrisée. Hein, les maires ont normalement, là, il y a des permis de construire, il y a des fermes qui existent et qui vont retrouver leur plein usage, donc de toute façon, le sujet de l'habitat précaire se pose sur cette zone.
Et aujourd'hui, il reste combien de squats que vous comptez démanteler, sachant que vous en avez démantelé 4, je crois, ce matin, c'est ça ?
Oui, absolument. Ben, écoutez, il en reste, on devrait arriver à une dizaine. C'était pas le nombre de squats, hein, qui a été le critère, c'était la volonté de rentrer dans l'état de droit.
Justement, d'une façon générale, Nicole Klein, est-ce qu'il y a une majorité de zadistes qui ont choisi la voie de la régularisation ?
Absolument, les chiffres parlent. Il y avait 97 squats, on en a détruit 29, on devrait en détruire une dizaine, en tout cas expulser une dizaine, puisqu'en fois, encore une fois, on ne détruit pas le bâti, on ne détruit pas les fermes. Donc oui, je pense que moi j'ai toujours dit, c'était un peu à la louche, deux tiers, un tiers. Je pense que la majorité des zadistes, de ceux qui s'appellent les zadistes, ont envie d'exploiter leurs terres, de faire peut-être une agriculture différente, mais c'est possible, et de vivre paisiblement sur cette zone.
Nicole Leclin, préfète de la région Pays de la Loire, merci d'avoir été l'invitée de France Culture. La grève à la SNCF a repris ce soir pour une 10e séquence jusqu'à samedi. La direction annonce pour demain un peu plus d'un TGV sur deux en circulation, deux TER et deux intercités sur cinq. Selon le directeur général adjoint de la SNCF, Mathias Vichra, ces conditions de trafic sont parmi les meilleures constatées depuis le début de la grève le mois dernier. En Italie, le gouvernement populiste se précise. Le mouvement 5 étoiles et la Ligue mettent la dernière main à leur programme commun. D'un côté, une formation inclassable, les 5 étoiles, hostile au système traditionnel. De l'autre, un parti classé à l'extrême droite, la Ligue, qui a fait alliance avec le Front National au Parlement européen. Les deux leaders, Luigi Di Maio et Matteo Salvini, se rejoignent pour contester l'influence de l'Union européenne sur l'Italie. Mathilde Imberti nous appelle de Rome.
Une semaine de réunions techniques entre les experts de chaque bord, de tête à tête entre les deux leaders, et le contrat de gouvernement entre la Ligue et les 5 étoiles s'avère quasiment bouclé. Quelques points de détail restent en suspens. Les mesures principales sur le plan international concernent la révision des traités européens, le renforcement du rôle du Parlement, plus de sortie de l'euro. Sur la Russie, l'appui du probable nouvel exécutif italien à une levée des sanctions contre Moscou. Sur le plan intérieur, une imposition plafonnée à 15 ou 20% en justice, l'introduction de la légitime défense. Concernant l'immigration, le programme serait définitif. Les néo-alliés s'engagent à créer davantage de centres de rétention, accélérer les expulsions vers les pays d'origine des migrants et renégocier la politique migratoire de l'Europe. Et puis deux mesures choc dans les transports, la reconsidération de la vente d'Alitalia, la compagnie aérienne, ainsi que la rediscussion du projet de ligne à grande vitesse entre Lyon et Turin. Un programme commun pour une alliance inédite. Les militants de la formation anti-système 5 étoiles sont appelés à donner leur avis sur ce contrat de gouvernement ce vendredi sur Internet. La Ligue, elle, consultera ses militants selon des modalités qui ne sont pas encore précisées. L'objectif est de déposer le tout, programme définitif plus composition du gouvernement, lundi, au chef de l'État italien qui aura le dernier mot. Le futur chef du gouvernement du pays n'a par contre pas été choisi à cette heure. Ce ne sera ni Luigi Di Maio, ni moi, avertit déjà Matteo Salvini.
Mathilde Imberti, interrogée sur l'arrivée au pouvoir des populistes à Rome, Emmanuel Macron a évoqué tout à l'heure, je cite, des forces disparates, hétérogènes et paradoxales. La France fera au mieux pour travailler avec ses partenaires et amis italiens, a ajouté le président français en marge du sommet européen de Sofia. L'Union européenne qui hausse le ton sur la question de la pollution de l'air. La commission de Bruxelles a décidé de renvoyer 6 pays, dont la France, devant la Cour de justice de l'UE. Motif, ces États membres ne respectent pas leurs obligations en matière de qualité de l'air. Pierre Benazé, ces 6 pays risque désormais des sanctions financières.
On n'en est qu'au début de la procédure et on est encore loin ici d'émettre ne serait-ce qu'une estimation des sanctions financières. Il existe des lignes directrices avec des sommes forfaitaires et des astreintes journalières, mais personne à la Commission ne s'est apparemment aventuré à faire des calculs. En fait, il s'agit surtout pour la Commission de taper du poing sur la table. Selon le commissaire européen chargé de l'environnement, 6 États membres, dont la France, se sont vus accorder suffisamment de dernières chances depuis 10 ans pour respecter la directive européenne de 2008 sur la qualité de l'air. Les mesures correctrices proposées par ces États après un sommet de l'air à Bruxelles fin janvier sont jugées insuffisantes pour fournir aux citoyens une qualité de l'air acceptable avant plusieurs années. La Commission a donc en quelque sorte perdu patience et décidé ce matin d'entamer un recours devant la Cour de justice de l'UE contre la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, mais aussi l'Italie, la Roumanie et la Hongrie. Ces pays sont accusés de n'avoir pas respecté les valeurs limites fixées pour le dioxyde d'azote et pour ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour écourter les périodes de dépassement. En France, par exemple, les normes de qualité de l'air ont été dépassées dans 12 zones, dont Paris, Marseille, Lyon ou encore la vallée de l'Arve. Ces pays aujourd'hui pointés du doigt, ne sont pas isolés. 13 États membres au total sont désormais sous le coup de procédures devant la Cour de justice pour non-respect de ces normes sur la qualité de l'air. Et 3 autres États font aussi l'objet d'un recours ce matin pour dépassement des limites d'émissions de particules fines.
Pierre Benazé à Bruxelles, et selon l'Agence européenne de l'environnement, cette pollution aux particules fines est responsable de près de 400 000 décès prématurés au sein de l'UE, dont 35 000 en France. Le temps demain sera ensoleillé sur la plupart des régions après dissipation des brumes matinales. En revanche, le ciel sera nuageux et parfois pluvieux sur les Pyrénées, le Massif central et les Alpes. Température minimale plutôt fraîche de 4 à 13 degrés du nord au sud. Les maximales iront de 18 à 23 degrés en général. Elles seront un peu plus fraîches près de la Manche, un peu plus chaudes dans la vallée du Rhône. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Caroline Benetot.